vouloir désormais rester sur les trottoirs. D'avance, merci.
C'est de la diff. La diffusion pour avoir le... Voilà le petit générique, merci beaucoup, pas plus. Demain nous accueillons le quai CDNC, on a vraiment plus beaucoup de temps, donc Topette, merci à tout le monde d'être venu. Voilà, Seb, la case de Seb, redis le titre. Non, c'est fini, trop tard.
La case de Seb.
Ciao.
5 FM.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez quand, si vous écoutez le podcast. Dans quelques instants, c'est la case de Seb. J'ai paumé mon générique, mais c'est pas grave. Attention, il est là. Si ça veut bien partir.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et bienvenue dans la case de Seb. L'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Je le redis, c'est encore Seb au micro. Hein, voilà. Ce soir, on va parler de lumière, de vampires, de tristesse, d'extraterrestres et entre autres choses. Par quoi on commence ? Eh ben, on pourrait commencer par tout de suite un peu de pas drôle, parce que il en faut bien. On aime bien, j'aime bien parler de jeunesse, j'aime bien parler de BD pour la jeunesse, mais j'aime bien aussi parler de BD qui parlent de la jeunesse et qui peuvent aider à sensibiliser un petit peu les relations qu'on peut avoir avec les enfants. Et j'ai eu une grosse émotion il n'y a pas très longtemps avec un très très bel album, pas facile du tout à lire. Pas évident parce qu'émotionnellement il propage pas mal de choses. Il s'agit du Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rojzman aux éditions Glénat. De quoi ça parle en fait le Grand Silence ? Eh bien, le Grand Silence, c'est une usine sur une île un peu perdue qui pourrait être située n'importe où. Et cette usine en fait absorbe les cris muets des enfants qui ont subi des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Des abus sexuels, physiques, des violences qui font que ces enfants ne parlent pas, qu'on ne les entend pas. Comment ça se traduit en fait au niveau graphisme ? Il y a plusieurs petites astuces qui sont utilisées. Un enfant qui a subi quelque chose va avoir perdu sa tête, comme s'il s'était éloigné de son propre corps pour que son cerveau ne subisse pas et ne comprenne pas ce qui vient de se passer. Et puis la deuxième chose qui lui arrive, c'est que ces bulles de texte, ces phylactères de bande dessinée, n'émettent plus aucun son. Il n'y a plus de texte, ce sont des phylactères blancs. Ce qui fait que on ne les entend pas. Les adultes sont sourds, volontairement ou non, face à la douleur et à ce que peuvent avoir subi ces enfants. Ce qui rend les choses très tristes et plutôt désagréables à lire. C'est assez malaisant, en fait, de savoir ce qui a pu arriver à ces enfants et de voir que tout le monde autour semble l'ignorer bien malgré eux. C'est un ouvrage qui est plutôt difficile à lire. On suit deux enfants, un frère et une sœur, qui vont être séparés par les aléas de la vie. Et l'un va subir... des violences physiques et l'autre des violences plutôt sexuelles, ce qui n'est pas vraiment très agréable. Les personnages sont plutôt cool, enfin cool c'est pas le mot, ils sont plutôt bien représentés, ils ont un côté assez agréable, sauf certains personnages, et ces personnages là on les remarque tout de suite, c'est des personnages qui sont des fauteurs de troubles. Et Le dessin fonctionne bien. Les astuces qui, sur le papier, au niveau du scénario, la perte de tête, les bulles muettes, font que c'est très compréhensible, c'est très lisible, c'est facilement explicable. C'est un petit peu dur, je pense, à parler de cet album avec ses enfants, mais ça vaudrait le coup de leur faire... lire quelques passages, peut-être pas la BD dans son intégralité, puisque même si ça peut permettre parfois de délier les langues, mais c'est une BD qui est plutôt dure. Il y a encore quelques astuces graphiques que je vais pas vous spoiler, mais qui arrivent plus vers la seconde moitié de l'album, qui montrent que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, ou tout bleu ou tout rouge, hein, en l'occurrence, mais je vous laisserai faire votre idée. Et ça fonctionne aussi assez bien, ça permet aussi de mettre un petit peu de subtilité dans ces faits, sans forcément s'apesantir dessus. Cette BD est très très jolie, c'est vraiment très bien, c'est bien fait, on ne fait pas dans le pathos, on ne fait pas dans la complaisance, on parle d'un sujet, on parle de manière difficile de ce sujet, on parle de manière efficace de ce sujet, qui est la violence faite aux enfants. Glénat a, je ne sais pas si c'est une demande de l'auteur ou si c'est Glénat qui a souhaité le faire, mais il y a une double page en fait à la fin qui résume certains chiffres sur les violences faites aux enfants. C'est assez glaçant, mais je vous laisserai les lire. Je l'en avais parlé sur Facebook et puis sur Instagram, mais il y a deux numéros éventuellement à retenir si vous constatez ce genre de situation ou si vous êtes victime de ce genre de situation. Souvent c'est un petit peu compliqué si vous en êtes victime, mais Allo Enfance Maltraitée, c'est le 119, c'est gratuit 24/24 et 7 jours sur 7, et Enfance et Partage, c'est le 0800 05 12 34, c'est un numéro vert, n'hésitez pas, faut surtout pas rester dans ce genre de situation si vous les voyez ou si vous le constatez. Je redonne les références, c'est Le Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rogeman, et c'est publié aux éditions Glénat. Je vais continuer avec de la jeunesse, un petit peu plus léger quand même, même si certaines thématiques sont un peu plus adultes qu'il n'y paraît, avec Green Lantern Legacy de Min Lee et Andy Tong. C'est publié aux éditions DC Urban Link, c'est publié aux éditions Urban dans la collection Link, et c'est du DC Comics. Alors, de quoi ça parle? J'imagine que si vous êtes aficionados des comics, vous savez très bien qui est Green Lantern. Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon, un jeune Vietnamien qui s'appelle Tai et qui a été installé, qui s'est installé avec sa famille à Coast City. Et il donne souvent un coup de main à sa grand-mère qui gère une petite épicerie, le comptoir de Jade, où j'ai perdu son nom. Le Jade Market. qui est un comptoir dans lequel les gens peuvent venir acheter des produits locaux, et elle fait le lien social avec tous les gens qui sont qui en ont besoin. C'est quelqu'un qui est une figure, on va dire, emblématique de ce quartier. Et elle est souvent victime de gens qui balancent des cailloux en disant rentrez chez vous, vous n'êtes pas de chez nous, vous êtes des Asiatiques, vous n'avez rien à faire chez nous. Donc la grand-mère subit ça sans vraiment broncher. Et puis Thaï, ça le gêne un petit peu. Et puis un soir, la grand-mère vint à décéder. Ça arrive, c'est pas très très joyeux. Mais Thaï va découvrir à cette occasion que l'anneau que portait sa grand-mère, l'anneau des Green Lanternes, puisque sa grand-mère était une membre du corps des Green Lanternes, Thaï va découvrir qu'il est l'héritier de cet anneau et devenir un Green Lantern. Voilà, et donc je ne vais pas forcément rentrer plus en détail dedans, mais il y a des méchants qui sont visuellement très méchant. Il y a un méchant, on a l'impression que c'est un méchant, mais tout de suite on se dit, mais non, il a l'air sympa en fait. Ça c'est pareil, je vous laisserai découvrir. Thaï vit sa vie avec ses amis. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a intégré en fait le changement de culture, l'immigration, dans une BD qui est plutôt axée, orientée jeunesse, et via un personnage qui a une quinzaine d'années grand maximum. Donc c'est des sujets qui sont un petit peu touchy et qui fonctionnent pourtant bien et qui sont abordés de manière... sans appuyer dessus, hein, et c'est quand même abordé de manière assez efficace. Il y a tout un flashback sur la grand-mère qui fonctionne très très bien. Graphiquement, on est sur un style comics, hein, c'est du comics, c'est du DC. C'est plutôt clean, c'est assez dynamique, c'est plutôt détaillé. Je pense que la couleur, c'est de la couleur numérique. Je pense que oui, sans vraiment me tromper. On est sur les formats souples de chez Urban Link qui fonctionnent bien. Là, le texte est un petit peu plus gros. C'est le reproche que j'avais fait pas mal à cette collection, c'était d'avoir des textes parfois un peu petits, mais là, ça fonctionne bien et c'est plutôt efficace. Donc, rien de plus à dire, si ce n'est aller lire Green Lantern Legacy de Min Lee et Andy Tong. Ça permet de découvrir un nouveau Green Lantern. Je ne sais pas si c'est un personnage qu'on retrouvera de nouveau. Je sais qu'ils avaient créé de nouveaux personnages, on en avait évoqué dans un opus précédent. Et j'avoue que ce petit Thaï, ça fait un jeune Green Lantern et ça donne un côté, un petit coup de frais à ce personnage que je trouvais pas forcément hyper fun, c'est mon avis. Après, j'imagine que vous, chez vous, il y a certains qui sont des fans mordus du petit bonhomme des Green Lantern. Je ne sais plus parler, je suis désolé. On va se faire une petite pause musicale avec une BD. Avec un morceau un petit peu étrange qui a été fait par Monsieur Rigolich. Vous pouvez checker sa chaîne YouTube. Le monsieur est spécialisé en fait dans les mashups et il va prendre un artiste, une musique, il va mixer les deux et ça donne des trucs parfois complètement improbables. Et là, il a fait un truc qui cartonne. Vous avez peut-être entendu déjà parler un petit peu partout. Il s'agit de Rage Against the Yuki, un mix entre Rage Against the Machine et Richard Gottener. On écoute ça tout de suite sur le 101.5 de Radio G.
était où, hein? Le Yuki? Le Jackie qui toutou, il était où? Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est qu'il était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki et mamie?
Où ça? Tout ça? Tout ça?
Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est qu'il était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki et mamie?
Où ça? Tout ça?
Tout ça? Où était là le bon chou qui joue? Où était là le plus beau des cookies? Il était là, le coucou, le plus joli de tous les bougies. Et c'est à qui tout ça?
C'est à qui
qu'il? À qui c'était les papas de poilu? Et à coucou,
c'était à qui?
C'est à nous qui la coucou qui remue. Il est Yuki alors, il est à qui? À qui c'est dit le mignon choupinou? À qui c'est dit, hein, le beau Yuki? À son papy ou bien à sa maman? Il est à qui?
Le kiki.
Il est à qui le gentil titoutou? Il est à qui?
Hein?
Le yuki. Le gentil titoutou à qui c'est qui? Si c'était pas à son papi, à son père, alors à qui il était le yuki? Si c'était pas à sa mamie.
Sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Je vous avais promis une interview en début d'émission, et eh bien c'est celle-ci. On va parler des déboires intersidérants de Taj le survivant. C'est une BD de Damien Geffroy et Olivier Subiot. C'était publié aux éditions Flûte Glaciale. Et écoutez, on a fait une belle interview avec ces deux jeunes gens, désolé Olivier, ces gens vraiment très sympathiques que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Eh ben non, on va pas se retrouver juste après, puisque l'interview ne veut pas partir. J'ai dû faire un petit plantage technique. Bon, je suis plus à ça près en ce moment, hein. Je suis désolé, chers auditeurs. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Je vais parler dedans parce que je m'entends suffisamment. Hop.
Alors, je peux aller, désolé.
C'est très bonne idée, comme ça on croira que
Damien Geffroy, je suis dessinateur depuis quelques années, anciennement instit. Voilà, je travaille au sein de l'atelier Kawa à Mazé. Et puis je collabore avec, j'ai la chance de collaborer avec quelques scénaristes de renom, dont Olivier Supiot, qui faisait partie de l'atelier aussi à l'époque. C'est là-bas qu'on s'était rencontrés. Voilà, moi ça fait 2 ans que je fais ça, à plein temps. Enfin, c'est ma 2e année à plein temps. Avant, je partageais mon temps avec l'école. Et voilà, je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde.
Et comment tu en es arrivé à la bande dessinée? Comment on...
Alors,
tiens, la BD, je veux faire ça comme métier.
Je me le suis toujours dit, mais alors moi je voyais ça à l'époque comme le métier de rockstar, c'est-à-dire qu'on est beaucoup à en rêver, on est très peu à pouvoir le faire. Et finalement, c'était pas forcément le cas. J'ai commencé à côtoyer l'atelier Kawa, j'ai vu qu'il y avait des gens déjà dans le coin qui faisaient ce métier. Donc je venais pour des conseils assez régulièrement, en essayant de mener des petits projets personnels aussi. Mais c'est par le biais des rencontres du coup que ça a vraiment démarré, avec Village Global et David Lesseau que j'avais rencontré aussi à l'atelier. Voilà, donc une première BD que j'avais faite à mi-temps en étant toujours instit, que je n'avais pas laissé mon poste, mais les choses se concrétisant de plus en plus, j'ai pu vraiment basculer. Alors donc j'avais toujours dessiné évidemment à dose relativement homéopathique, faut le dire, pendant quelques années, et beaucoup plus activement depuis maintenant donc 2 ans, et je me rends compte que je me suis senti progresser, et je me sens peut-être de plus en plus légitime, et puis j'ai de plus en plus envie du coup, donc voilà, c'est la bande dessinée effectivement, c'est le dessin qui m'intéresse principalement, mais vraiment le côté BD, ça m'a toujours parlé depuis tout petit.
Et avec 2 ans de recul, ta carrière pour l'instant, comment tu la vois? Est-ce que tu peux me faire un petit retour sur ta carrière actuelle?
Je me sens très chanceux parce que rencontrer l'atelier Kawa, avoir l'atelier Kawa pas très loin de chez moi en milieu rural, c'est déjà une chance énorme. Donc j'y côtoie, comme je disais, y a TM qui est là-bas, il y a Boris Beslin qui passe souvent, Tony Emerio, Dominique Enbeau, enfin pas mal d'auteurs locaux, Simon Bonnefoy aussi.
Il n'y a pas de souci. Tu citais que des noms fabuleux.
Oui, c'est vrai. Ah oui, retour sur ma carrière. Et du coup, une succession de coups de bol, en fait, parce que c'est Olivier qui est venu me trouver pour proposer quelque chose chez Fluide Glacial. Et j'avoue que c'était assez inespéré. Enfin, je sais pas comment lui l'a vécu, mais moi, j'y aurais pas cru. Non pas par rapport au travail d'Olivier, mais c'est tellement légendaire pour moi. Et donc, rentrer chez Fluide, travailler maintenant pour un deuxième scénariste chez eux, avoir un autre projet BD qui a démarré avec Les Veuves Électriques, donc une série qui démarre, il y a le tome 1 qui est sorti, le tome 2 en préparation, voilà, ça s'est vraiment goupillé parfaitement, et je me rends compte de ma chance parce que j'ai bien conscience qu'il y a d'autres auteurs qui ont sans doute beaucoup plus de talent que moi et qui n'ont pas cette chance, quoi. Donc voilà. Voilà, 2 ans formidables pourvu que ça dure.
On va passer éventuellement à Olivier s'il peut se présenter, puis après on parlera du travail. Tout le monde.
Donc bonjour, Olivier Supiot, dessinateur de bande dessinée, scénariste et coloriste, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est important. Donc depuis maintenant un peu plus de 20 ans, donc voilà, même si à chaque fois qu'un livre sort, c'est toujours la fête. Donc effectivement, scénariste sur Les déboires intersidérants de Tage le survivant, avec le dessin de Damien. Suite à ce qu'il a dit, si je peux me permettre, et il est quand même très modeste, parce que c'est vrai que Damien, comme il dit lui-même qu'il a fait des progrès, mais il est déjà arrivé avec un dessin qui se tenait bien et qui avait vraiment quelque chose. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de lui proposer le projet pour Fluide Glacial. Je trouvais que son dessin appelait à faire des personnages un peu fous, des créatures, des univers un peu fantastiques. Là, en l'occurrence, science-fiction. Et du coup, voilà, il a très bien parlé de l'atelier Kawa, c'est toujours formidable de travailler en atelier. Moi, l'atelier Kawa, c'est mon 4e atelier. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'atelier apporte quelque chose. entre dessinateurs, dessinateurs scénaristes, il y a vraiment un bel échange et ça c'est magique. Et merci Damien d'avoir accepté qu'on fasse cet album ensemble. Et donc très content.
Super. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à la bande dessinée ?
Alors, ouais, je m'en rappelle normalement, ouais. En fait, c'est une envie qui est très liée à l'enfance. Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. J'écrivais aussi des petites histoires. J'ai encore des carnets où on voit des histoires très naïves d'ailleurs. Mais c'était déjà l'envie de d'écrire et de dessiner. Et pendant longtemps, je me le suis interdit. Parce que je pensais que, comme disait tout à l'heure Damien, ça me semblait loin, ça me semblait pas possible, je me sentais pas forcément légitime. Et puis en fait, j'ai fait plein de petits boulots différents, toujours liés au dessin. Et finalement, ce qui m'a permis, je dirais, de pouvoir en faire mon métier, c'est l'envie, tout simplement. L'envie était plus forte que le reste. Et voilà, et donc il y a eu pas mal, quelques années où ça a été très difficile parce que j'envoyais des projets qui étaient refusés, bien sûr, comme beaucoup on est passé par là. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a dit oui, donc ça a été la grande chance. Et voilà, aucun regret, 20 ans, ça fait quand même quelques années, quelques albums, 37 pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de faire des collaborations, des fois de bosser seul et de pouvoir travailler avec d'autres dessinateurs ou d'autres scénaristes, c'est toujours magique quoi. On rencontre la personne, mais on rencontre aussi un univers, et ça c'est toujours très intéressant et constructif.
Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur justement tes 20 ans de carrière ? Parce que tu es basé sur différents types de bande dessinée.
Oui.
Moi, je te connais beaucoup pour les parties jeunesse avec beaucoup de tendresse.
Merci. Et
tu enchaînes sur des choses qui sont différentes de jeu de caractère, qui est vraiment différent, on va dire, de ce qu'on a l'habitude de connaître.
Bah, c'est vrai que j'ai commencé avec la bande dessinée jeunesse, notamment avec Marie Frisson. Ça a été une très belle aventure parce que pouvoir travailler dans un magazine, là c'est le cas aussi avec Fluide, mais de pouvoir travailler dans le magazine de Tcho, ça a été une très très belle expérience parce qu'il fallait avoir de la régularité. J'avais eu la chance de rencontrer Eric Batiza qui avait écrit les scénarios pour Marie Frisson. Donc j'ai pu faire l'album, enfin sept albums de Marie Frisson, ce qui est quand même une grande grande chance. Et puis c'est vrai que j'ai pu aussi proposer à un moment donné un livre très spécial pour moi, en tout cas ça a été vraiment important, qui était le Dérisoire, où on s'attendait pas à me voir dans un registre adulte sombre. Et moi c'est ce que j'aime dans la bande dessinée. Pour moi, la bande dessinée, c'est encore un média qui est libre. C'est-à-dire, on peut vraiment, en tant que personne, en tant que créatif, je dirais, aller vers plein d'univers différents. Et moi, c'est ça que j'aime dans la bande dessinée, et c'est ça que j'aime aussi dans les collaborations en travaillant en bande dessinée.
Alors, on peut enchaîner éventuellement là-dessus. Est-ce que ça apporte quoi vraiment travailler en atelier, à part de faire des rencontres ? Ah, bah, peu importe, les deux, ouais. Celui qui s'y sent.
Tu veux répondre ?
Je vais essayer, je vais pas perdre mes mots. Alors les rencontres, c'est vrai que c'est une bonne part quand même du principe. Alors moi en plus je côtoie des gens qui ont quand même beaucoup de talent, et de voir leurs planches en réel, les voir travailler en direct sur des grands formats, c'est génial. Plein de techniques que je maîtrise pas du tout. Il y a l'émulation, le fait qu'il y a des projets qui peuvent naître comme ça, des rencontres justement. Après il y a aussi le côté le rayonnement, enfin on sait où nous trouver, et même que ça soit des jeunes qui soient en recherche de conseils ou même des éditeurs qui passent dans le coin, voilà, ça fait un rendez-vous BD comme je disais, en plein milieu de la campagne. Maintenant les gens font le détour, enfin de plus en plus en tout cas. La bonne ambiance, l'ambiance de travail, parce qu'à la maison c'est pas toujours évident. Les gens qu'on télétravaillé pendant les confinements ont peut-être découvert ce que ça pouvait être quand il y a du monde à la maison, et voilà. Tout ça réuni, c'est vrai. Alors j'y vais pas tout le temps parce que je suis quand même à 20 minutes, moi, donc c'est vrai que aujourd'hui on prend pas la la voiture quotidiennement quand on n'est pas forcément contraint. Mais c'est un rendez-vous plusieurs fois par semaine, quand même assez régulier. Et puis on donne des cours aussi, donc il y a aussi le côté on partage ce qu'on aime, partager sa passion, quoi. Donc voilà, il y a multiples intérêts. Il y a des événements qu'on crée aussi, donc faire tout ça ensemble. Et puis il y a même peut-être des projets qui doivent peut-être encore rester secrets, mais des petites publications qu'on va pouvoir faire peut-être en atelier, des choses comme ça. Donc il y a plein de trucs super motivants. Et puis on vient de différentes branches de la BD, donc ce côté-là aussi, c'est vrai que c'est génial, quoi. Et puis quand on est comme moi, on a tout à découvrir. Voilà. Voilà.
Et du coup, justement, comment est venu ce projet commun?
Justement, à l'atelier, à l'époque, on s'y retrouvait régulièrement avec Olivier. C'est Olivier qui avait des histoires, je pense qu'il en a encore d'ailleurs, sans doute cachées dans ses cartons quelque part. Mais en tout cas, il en avait à l'époque à me proposer. Et moi, j'ai pas hésité une seconde. C'était même assez impressionnant. J'étais le premier surpris, mais il y croyait, alors j'y ai cru aussi. Et voilà. Bon, moi, Olivier, je le connaissais depuis très longtemps en tant que lecteur, donc déjà, le côtoyer à l'atelier, c'était... Lui et certains autres, c'était quand même... Mais alors qu'il en vienne à me proposer quelque chose à moi, voilà, je me suis senti comme je disais tout à l'heure, un gros coup de bol. Je pouvais pas refuser une occasion comme ça. Donc ça a démarré comme ça, quelques histoires qu'on a envoyées à Fluide, et puis ça a été jusqu'à l'album. C'est vrai que c'était peut-être pas décidé dès le début, enfin on le savait pas dès le début que ça allait finir en album. Mais voilà, aujourd'hui il est là, et puis on continue à envoyer des histoires à Fluide, donc qui sait pour la suite.
Olivier, comment est venue cette idée d'humour dans l'espace ?
Alors, c'est un peu spécial parce que Damien, il a dit gros coup de bol. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'en fait, c'est son dessin aussi qui m'a donné envie de lui proposer quelque chose. Donc, vu que je voyais que son dessin avait vraiment un un très beau potentiel avec le premier album qu'il avait fait qui était vraiment super avec David, c'était Village Global qui était vraiment super. Et du coup, effectivement, je me suis dit tiens, faudrait lui proposer peut-être, s'il le veut bien, des histoires un peu de science-fiction, parce que l'idée c'était quand même de faire des histoires comiques, et cosmiques, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'idée c'était vraiment de mélanger les deux genres, mais sans se prendre au sérieux. C'est vraiment vraiment ça l'idée, c'est vraiment qu'on passe un bon moment où on s'amuse, on se laisse surprendre par moments, j'espère. Et puis surtout, on profite des dessins de Damien qui permettent de voyager, de faire un voyage interstellaire un peu débile. Je le dis franchement, c'est tout à fait volontaire, débile dans le sens on s'octroie des libertés. On est vraiment dans un délire tous les deux. Je pense qu'il y a eu comme un jeu aussi qui s'est installé, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver des histoires courtes. En fait, ça paraît simple comme ça, une histoire courte, mais en très peu de temps, il faut placer une situation, placer des personnages, et qu'il y ait quand même un fil conducteur qui soit compréhensible par tout le monde. Et donc, c'est vraiment pas évident. Et si possible de faire rire, ou avoir une fin qui est dérangeante. C'est vrai qu'il y a certaines histoires qui sont un peu plus dans de l'humour noir, d'autres qui sont, enfin, l'humour noir est quand même bien présent, mais il y a aussi beaucoup de dérision. Enfin, l'idée c'est ça, c'est vraiment que on s'amuse avec ce personnage, et ça permet aussi à Damien de nous montrer l'étendue de ses capacités au niveau dessin, où il y a de quoi s'amuser. Voilà.
Un album au niveau humour assez différent de l'exercice des strips qu'on a pu voir sur Klebs.
Oui, tout à fait.
Ça se conçoit vraiment différemment.
Oui, ça se conçoit différemment parce que, comment dire, les strips, c'est 4, 5, 6 cases. Un début, une fin, hop, à la fin, ça y est, c'est plié. Donc ça, c'est vraiment un exercice très rythmé avec l'idée de faire rire à la fin. Tandis que là, on a quand même l'idée, même si c'est 4, 5, 6, 7 pages, l'idée de raconter une histoire, mais finalement dans un temps très court. C'est un peu comme un court-métrage, en fait. Donc ça veut dire qu'il faut que l'idée soit assez forte pour qu'on ait l'envie de raconter quelque chose. Et en même temps, faut pas non plus que ce soit... enfin voilà, faut qu'il y ait vraiment quelque chose de conséquent, mais qu'on perde pas le lecteur non plus. Donc il y a vraiment ce côté... moi, personnellement, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est pas un format qui est tellement usité, parce qu'avant, il y avait beaucoup de magazines, donc ce format-là, on le voyait beaucoup. Maintenant, c'est vrai que les bandes dessinées qui sortent, il y a beaucoup de romans graphiques qui sont rarement sur ce format-là. Et c'est vrai qu'il y a un côté que j'aime beaucoup, moi, qui est instantané dans les histoires et qui permet de changer d'univers d'une histoire à l'autre. Alors, à la lecture, ça peut être un peu déstabilisant parfois, mais en même temps, moi, je trouve que c'est un exercice de scénario qui est très, très intéressant, parce que du coup, on a finalement pas mal de contraintes et on a quand même cet objectif de raconter une histoire avec des fois... Je l'espère aussi, des petits messages qui sont passés, mais sous forme comique. Et puis l'idée, c'est, enfin moi, ça me fait toujours rire, parce que ce qui est génial avec Fluide, c'est que des fois ils peuvent nous répondre, on a trouvé ça très con. Et ça, franchement, bah, c'est un compliment en fait, parce que c'est pas si simple en fait de trouver une histoire qui soit surprenante et en même temps où on se dit ils ont fait ça, d'accord, fallait quand même y aller. Et en fait, il y a ce côté intéressant d'humour un peu direct, voilà.
Et comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que tu avais des scénarios justement pour ces histoires courtes et que tu les imposais à Damien, ou est-ce qu'il avait un droit de regard sur certaines choses en disant ça je trouve ça un peu nul, ou est-ce que...
Alors je pense qu'il a pas osé parce qu'il est trop gentil. Donc voilà, moi c'est vrai que je peux être vraiment casse-pied sur les scénarios. Damien va avoir la gentillesse de ne pas le dire, bien sûr, mais non, en fait c'est vrai que j'amène un scénario qui est découpé, c'est-à-dire il est déjà découpé.
Il est storyboardé,
dialogué, si bien que Damien le découvre en tant que lecteur déjà. C'est-à-dire, je trouve que ça permet d'avoir une immédiateté, et surtout sur l'humour. Pardon. Ah oui, désolé. Et du coup, voilà, il y a ce côté, il lit l'histoire directement. Et puis, il a eu la gentillesse de me refuser aucune histoire, et j'en profite pour lui dire, écoute Damien, merci beaucoup, mais tu peux aussi refuser les histoires si elles ne te plaisent pas. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a eu pas mal d'histoires qu'ont été storyboardées comme ça. Après, peut-être je laisse la parole à Damien pour dire ce qu'il fait après, parce que c'est sa partie. Mais du coup, je lui amène un storyboard crayonné avec les dialogues. Et après, c'est à Damien de jouer.
Oui, après, il n'y a plus qu'à dessiner, à repasser sur les traits.
C'est facile.
Non, mais c'est vrai que du coup, ça, déjà, c'est très récréatif, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait qu'on change d'univers très souvent, etc. Mais alors, en plus, d'amener un scénario qui est déjà découpé, c'est vrai que ça me fait quand même du travail en moins, faut être honnête. Même si je prends beaucoup de plaisir au découpage aussi sur d'autres histoires. Mais ça permet d'être en rapide aussi, parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis, comme tu le dis, oui, ça permet de se rendre compte aussi dès la première lecture de ce que ça donne. C'est mieux que quand c'est écrit dans un petit tableau. Moi, je récupère les planches d'Olivier, je rigole beaucoup, je lui dis que c'était bien, et puis après, je commence le dessin. Donc, souvent, je crayonne au papier, un petit peu comme disait Benoît Vieillard. Moi aussi, j'aime beaucoup la sensation du dessin au crayon et avec le papier vraiment, donc physique. Et après, je scanne ça, et avec les logiciels aujourd'hui qui sont très bien faits, je vais avoir des beaux bords de cases, tout ça, le texte, etc. Tout va se positionner en très peu de temps. C'est un gain de temps incroyable par rapport aux méthodes traditionnelles qu'on utilisait anciennement. Après, bon, c'est peut-être une question de goût au niveau du résultat, mais c'est vrai que c'est très rapide et efficace. Et en général, on demande de la validation au niveau de fluide glacial à cette étape-là. Donc, juste quand le crayonné est propre, vraiment lisible, le texte est tapé. Et puis si on a le feu vert, je passe au dessin, à l'ancrage, parce que finalement j'ancre directement sur le crayonné, et puis les couleurs derrière. Tout ça par informatique du coup.
Voilà. Est-ce que tu retravailles certaines cases ou est-ce que tu restes sur le storyboard tel quel?
Je modifie peu. J'ai essayé des fois. Non, pour être honnête, c'est arrivé une fois ou deux que je fasse des propositions des fois à Olivier, mais son argumentation était toujours solide et bon bah on discute. Hein. J'allais pas non plus moi refuser des choses comme ça et non à chaque fois c'est lui qui a eu le dernier mot parce que c'est lui qui avait raison et puis c'est vrai que l'histoire venant de lui. Alors c'est vrai qu'au niveau du gabarit, après bon, il y a beaucoup d'échanges qui se font par téléphone donc je pourrais oser dire les choses, mais il y a pas besoin. Tout est bien réfléchi. Quand il m'envoie ça, c'est qu'il l'a déjà quand même bien pensé jusqu'au bout. On voit bien que c'est pas jeté en 5 minutes et donc c'est difficile de l'améliorer. En tout cas d'un point de vue scénario, il y a pas grand chose à faire. Et puis j'allais dire aussi au niveau du dessin, c'est juste une petite parenthèse, j'ai oublié de le dire, mais il est fort aussi en design de monstres. Alors c'est vrai que moi ça m'inspire, notamment les premières histoires au début, je disais que ça me rassurait beaucoup d'avoir ces dessins déjà à la base pour c'est partir sur un design de monstre en particulier. Par exemple, je sais que Taj ressemblait un petit peu, alors il est adapté, mais il ressemble un petit peu à ce qu'avait fait le premier dessin qu'avait fait Olivier aussi sur la première histoire, quoi. C'est toi qui le dis, un autre style.
Est-ce qu'on peut du coup parler maintenant un peu plus de Taj? Qu'est-ce que c'est comment ça a été conçu pour Fluid?
À la base, c'était pas Taj forcément le personnage principal. C'était une série qui aurait pu s'appeler, comme on disait tout à l'heure, Space Cake. Qui est un titre qui n'a pas été pris pour différentes raisons, mais en tout cas c'est Taj est venu après, plus tard comme personnage principal. Donc au début c'est surtout de la SF un peu concon, c'est plutôt ça le fil rouge, enfin le synopsis, comme pour dire, voilà.
Et
Oui, effectivement, Taj n'est pas venu. Enfin, c'est la première histoire qu'on a pu écrire pour ce projet, enfin pour ce livre, c'était une histoire avec Taj. C'est vrai que, en fait, quand on a commencé à envoyer les pages pour Fluid, on ne pensait pas, nous, avec Damien, on était déjà tellement contents qu'on ait des planches qui soient parues dans le magazine. Pour nous, c'était déjà énorme. On se dit, c'est super d'avoir des planches qui paraissent dans le magazine de Fluide Glacial. Déjà parce que moi, j'avais bossé pour Fluide il y a très longtemps. En 98, j'avais bossé pour Fluide. Et en fait, moi, je suis un gros fan de Gottlieb. Donc déjà, rien que ça, d'être publié dans le magazine de Marcel Gottlieb, déjà rien que ça, c'est une belle récompense. Et avec Damien, on pensait pas au début que ça allait finir en album, quoi. On s'amusait à faire nos histoires, mais au début, on pensait vraiment pas qu'on aurait eu la chance, on aurait la chance de faire un album. Donc après, je dirais, Taj s'est imposé aussi au fur et à mesure, même si on trouve ça intéressant. Je pense que Damien est d'accord avec ça, mais on trouve ça intéressant aussi qu'il y ait des histoires sans Taj, parce que ça permet aussi d'expérimenter d'autres personnages. Donc il y avait vraiment ce jeu de s'amuser avec un univers polymorphe comme ça, où on peut s'amuser à aller dans des univers différents. Ce qui est amusant, c'est que la première histoire, en fait, elle résume un peu des choses de l'album, c'est-à-dire qu'à travers la première histoire, on va faire des rencontres aussi et des lieux, on va revoir des lieux qu'on peut voir dans des histoires un petit peu plus loin, en fait. Donc ça, on trouvait ça assez assez amusant. Et c'est vrai que c'est un univers qui permet vraiment d'aller vers plein d'autres choses et de parler de choses différentes. Parce qu'on peut très bien, alors il dit juste très justement, Damien, que c'est univers SF concon. Moi, ça me va tout à fait, parce qu'on n'a pas la prétention de révolutionner la littérature de science-fiction. Oh là là, on n'en est vraiment pas là. Nous, l'idée, c'est vraiment de s'amuser à travers un personnage et de raconter des histoires qui, on l'espère, fait aussi voyager les lecteurs. en s'amusant et surtout en passant un bon moment, en se disant ah non, ils ont quand même pas fait ça, ou et ça, rien que ça, c'est ça, enfin personnellement, ça me remplit de joie, quoi, de savoir que des personnes peuvent rire des histoires qu'on a pu faire avec Damien, et surtout l'envie d'en raconter d'autres, quoi, parce qu'effectivement, quand on crée des personnages, c'est ça qui est amusant, c'est un peu comme des marionnettes. On va s'amuser avec ces personnages pour pouvoir jouer à travers les cases de bande dessinée. Donc ça, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est une grande grande chance de sortir cet album chez Fluid.
Et puis on va pouvoir enchaîner sur la dernière question. Si vous devez convaincre, alors chacun votre tour, avec vos arguments, faut qu'à faire. Si tu devais convaincre un lecteur prendre Tâche plutôt qu'une autre BD.
Alors ça, c'est vraiment une question pas facile. Moi, si je devais résumer, si vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, de passer un bon moment où vous allez vous amuser et voyager à travers l'espace, et surtout pas sérieusement, eh bien, faut lire Tâche, parce que Tâche le survivant, il y a un peu dans chacun d'entre nous un petit peu de Tâche le survivant. Il y a un peu un côté winner et loser à la fois. Enfin, surtout pour Tâche loser, ça c'est important. Et puis surtout, voilà, passer un moment de lecture où on peut s'arrêter, on pioche, on va lire une histoire, on va se dire tiens, ce soir je vais lire cette histoire-là, puis peut-être je lirai pas celle d'après, mais celle de la fin. Voilà, il y a vraiment cette idée de s'amuser à piocher dans un univers sans avoir forcément une lecture linéaire, quoi, en fait. Donc passer un bon moment de lecture, tout simplement, et j'espère que vous allez rire, hein, c'est quand même le but du jeu. Je vais passer le micro à Damien.
Moi, j'insisterai, oui, sur le côté voyager. Enfin, moi, la SF m'a toujours plu pour ce côté-là, le côté évasion. On prend un roman et quand on est dans un univers, vous verrez, si vous n'avez pas encore lu Dune quand ça sortira au cinéma. Enfin, bref. Moi, la SF, voilà, je trouve qu'on est dedans complètement. C'est-à-dire que chaque histoire nous amène à un endroit différent de l'univers, dans des ambiances différentes. Voilà, donc si on veut voyager en réduisant son empreinte carbone, c'est le bon livre à acheter. Et puis si on peut, c'est vrai que les chutes à la fin d'Olivier en général sont plutôt inattendues et toujours marrantes, donc si vous aimez rire, si vous faites partie de ces gens qui aiment rire ou sourire de temps en temps, allez-y.
www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur... Hop là, pour qui il est parti trop vite. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Damien Geffroy et Olivier Subbiau qui nous parlaient des déboires intersidérants de Tâche le survivant, publié aux éditions Fluide Glacial. Je m'excuse encore pour la qualité un peu pourrie de l'interview. Enfin, pas la qualité des propos des gens, c'est juste que j'ai fait un beau montage et que j'ai dû me rater quelque part. C'est une marotte en ce moment de rater les montages que je fais. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous avez quand même apprécié cette interview et les propos hyper intéressants de Damien Geffroy et Olivier Subbiau. Après cette interview, que raconter de plus sur cet album, puisque beaucoup de choses ont été dites. Alors je vais juste donner mon avis, en fait, puisque Tâche, effectivement, c'est un ouvrage qui peut se picorer, comme le soulignait Olivier. On peut prendre une histoire de temps en temps et puis passer à une autre sans forcément suivre la continuité. Et puis on va découvrir, en fait, des histoires beaucoup d'humour noir, comme le soulignait effectivement Olivier, mais des gags toujours un petit peu absurdes. Il y a des gags qui vous plairont, des gags qui vous plairont pas forcément. Olivier arrive à jouer avec les codes et avec l'attente du lecteur, ce qui fait que ça rend les choses d'autant plus dingues et d'autant plus drôles. Ça prend beaucoup de contre-pieds, ça fait aussi pas mal réfléchir sur la situation actuelle de notre monde et des choses que on devrait favoriser ou préférer. Et puis le style de Damien fonctionne très très bien, hein. Il sait effectivement rendre des personnages plus vivant que nature, soit en rajoutant des petits boutons, des petits détails qui rendent ces extraterrestres, parce qu'il y a beaucoup d'extraterrestres et très peu d'humains hein, dans l'album, qui les rendent beaucoup plus vivants, beaucoup plus teigneux, beaucoup plus bizarres et étranges, voire flippants, alors qu'ils ne le devraient pas. Mais ça, c'est peut-être un petit peu du spoil, mais je vous laisserai découvrir ça de manière plus ample. Hein. C'est un ouvrage qui vraiment vaut le coup, donc n'hésitez pas, c'est vraiment super bien. Je redonne les références, hein, même si on les a déjà données plein de fois, c'est Les Déboires Intersidérants de Taj le Survivant, c'est publié aux éditions Flux Glacial, c'est de Damien Geffroy et Olivier Supio. Bon, il me reste pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même peut-être le temps d'aborder aussi un autre album. Je voudrais vous parler de Le Long des Ruines de Jérémy Perraudeau, c'est publié aux éditions 2024. C'est un ouvrage qui est un petit peu particulier, puisqu'on suit un scientifique qui va rentrer dans la tête d'une jeune femme qui est dans le coma. Ce scientifique a développé une technique particulière en fait pour pouvoir rentrer dans la tête et il se fait payer pour ça, pour aller décomatiser, si je peux me permettre le terme, des gens. Et là il le suit, alors ça se passe dans un futur, on ne sait pas quand, dans un futur, et la sœur en fait de la jeune femme qui est dans le coma va se joindre à lui, bon gré mal gré, hein, il a l'air d'être plutôt partant, même si c'est pas vraiment ses habitudes, et ils vont découvrir les ruines qui composent la psyché de cette jeune femme dans le coma. Alors si sa machine permet de reconstituer numériquement ce qui se passe dans la tête de cette jeune femme, c'est pas dénué de danger. Hein. Si vous deviez perdre un bras dans ce monde virtuel, vous perdriez un bras en vrai, ce qui est plutôt... Bon, c'est plutôt gênant en règle générale quand il nous manque un bras. Donc, faut faire très très attention et le temps ne s'écoule pas de la même manière dans ce monde que dans la vraie vie. Et du coup, en compagnie de la sœur, ils vont arpenter un monde très hostile, un monde dans lequel même la principale intéressée n'est pas forcément en sécurité ni bienveillante. Jusqu'à un dénouement que je vous laisserai deviner. Mais c'est un parcours initiatique, c'est une quête dans une psyché, c'est assez déstabilisant. Graphiquement, on est aussi sur quelque chose qui est un petit peu déstabilisant. On est sur, je ne vais pas dire minimaliste parce qu'il y a plein de détails, mais on est sur un dessin composé de beaucoup de formes géométriques, ce qui lui donne un aspect assez, assez particulier, assez futuriste, assez original. Au niveau couleur, on est sur des couleurs qui sont on est sur des bleu blanc noir. C'est une trichromie qui, pareil, donne un aspect assez étrange, assez onirique à cet ensemble. Alors il y a des tonalités hein, de gris et de bleu qui vont jouer, mais du coup ça donne quelque chose de vraiment très différent, très étrange, dans lequel on se laisse bercer avec un grand plaisir. Donc on accompagne ces personnages-là jusqu'à peut-être avoir permis de sortir une jeune femme du coma. Et moi je vous laisserai le lire. Hein. C'est un ouvrage qui est... je ne sais pas comment ils le font, c'est un ouvrage qui fait presque 230 pages, et on est sur un ouvrage qui, malgré sa taille imposante, est quand même assez léger. Donc quand je dis assez léger, parce que le papier est assez léger, mais il est fluide dans sa narration aussi. Donc faut pas avoir peur de rentrer dedans. Graphiquement, effectivement, ça peut surprendre, ça peut ne pas forcément vous plaire. Mais du coup, ça marche vraiment très très bien. Et puis au niveau fabrication, on va revenir à ce jeu. Je l'aborde assez rarement, mais on est sur un livre qui risque quand même d'être assez fragile, puisqu'il n'y a pas de pelliculage dessus. Il y a un petit marquage sur le titre et le prénom et le nom de l'éditeur. Et l'ouvrage est très très joli, très très agréable. Et je suis en train de remarquer qu'il n'y a que sur la couverture où il y a deux personnages qui ne sont pas de la couleur, qui ne sont pas des personnages de cette trichromie. Je ne sais plus parler. Je redonne les références, il s'agit de Le Long des Ruines, c'est de Jérémy Perraudeau, c'est aux éditions 2024 et c'est vachement bien, ne vous laissez pas effrayer par la taille de l'ouvrage, c'est vraiment très très sympa. That's all, folks. Vous venez de...
Sauvez-vous tous.
Ah bah décidément avec mon générique. Vous venez de l'entendre, c'est pour qui? C'est le... Dans quelques instants, on va être obligé de se quitter pour laisser la place à des gens qui font beaucoup de bazar, qui sont déjà à faire coucou. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur www.radio-g.fr, onglet La Case des Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous aimez l'émission, bah, partagez, likez, abonnez-vous. J'avais fait un concours pour gagner des albums il y a quelques semaines. Je les repasserai avec l'accord de Pierre Benoît dans Topette, puisque bah, faute de participants, je ne vais pas faire offrir des albums à personne. Hein, ce serait quand même dommage que ces albums-là, donc il y aura peut-être un tâche à gagner. Ça peut être l'occasion de faire un petit calendrier de l'Avent de Noël. Bref, on n'oublie pas, demain à partir de 23h, on se retrouve dans un nouvel épisode des Voix du Scénarium. Et on se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.
101.5 FM.